Pas toujours facile de s'y retrouver avec les plantes, le docteur Jacques Labesca vous dit tout ce qu'il faut savoir sur la phytothérapie.
Le moyen le plus simple de ramasser des plantes, d'abord, c'est d'aller dans la nature. Vous me direz que c'est pas toujours facile parce qu'on n'est pas toujours dans la bonne saison. Et puis surtout, on peut se tromper. Et là encore, il faut demander, comme pour les champignons, aux pharmaciens, d'identifier les plantes que l'on a ramassées, être sûr que on n'a pas confondu l'angélique et la vératre blanc, parce que l'angélique c'est bon, c'est même bon en confiserie, mais la vératre blanc c'est assez dangereux. Vous voyez, donc on peut se tromper, surtout quand les plantes ne sont pas en fleurs. Le deuxième point, c'est que il faut savoir comment les ramasser. Alors évidemment, il faut éviter les bords des autoroutes et les bords des usines d'incinération, parce que là, on est sûr d'avoir un maximum ou de dioxyde ou de produits lourds, enfin de métaux lourds, et c'est peut-être pas ça qu'on cherche en se traitant par les plantes. Mais même si on fait très attention, à quel moment faut-il les ramasser dans l'année ? Déjà, est-ce qu'il faut les ramasser en automne, au printemps, quand la sève monte, quand la sève tombe, quand elles sont en fleurs, quand elles ne sont pas en fleurs, enfin à quel moment faut-il les ramasser et à quel moment faut-il les ramasser dans la journée? Est-ce qu'il faut qu'il y ait de la rosée? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait de la rosée? Est-ce que vous soyez bien sec? Est-ce que ça doit être le matin ou est-ce que ça doit être le soir? Tout ça, c'est pas si simple. Et malheureusement, maintenant, nous disposons plus suffisamment d'herboristes en France, il n'y en a plus qu'une dizaine, je crois, qui sont là pour nous guider. Alors, il faut prendre un bon livre, si on veut, qui nous dira, eh bien, par exemple, l'écorce de bouleau, il faut la ramasser sur les jeunes pousses au moment du printemps. Ou alors, on a parfois la chance d'avoir des pharmaciens qui ont pris le relais, qui ont ouvert une herboristerie parallèlement à leur pharmacie, puisque c'est eux qui auront la charge, la vente des plantes médicinales. En principe, il y a quand même, à peu près dans toutes les régions, un pharmacien qui s'y met, ou qui y est, par goût, ou par stimulation de la part de sa clientèle. Alors lui, il va pouvoir ou nous vendre des plantes en vrac, ça peut être des fleurs, des feuilles, des tiges ou des racines. Si c'est en général ce qu'on appelle des parties aériennes, c'est-à-dire les fleurs, les feuilles, les tiges, on fait des infusions. On met de l'eau bouillante sur la plante, en principe une cuillerée à soupe de plante pour une tasse d'eau bouillante. On laisse infuser 10 à 15 minutes, et ensuite on passe et on boit. Pour les parties souterraines, c'est-à-dire les racines, les rhizomes ou l'écorce, c'est-à-dire les parties dures en fait, ce sont plutôt les décoctions. On met la racine sèche ou fraîche ou l'écorce sèche ou fraîche dans de l'eau bouillante et on laisse bouillir pendant quelques minutes. Éventuellement après, on peut même laisser infuser, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que ça boue un peu pour que le principe actif puisse pénétrer dans l'eau. Alors là aussi, c'est à peu près en fonction des préparations, une cuillère à soupe par tasse d'eau bouillante d'écorce ou de rhizome. Quand on a une plante en vrac, on peut savoir d'où elle vient à peu près. Le spécialiste pharmacien ou herboriste vous a dit que c'est une plante qui a été ramassée à tel endroit, on a sa traçabilité. En capsule ou en gélule, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on ne sait pas d'abord combien il y en a dedans. Parce que vous savez, sur les boîtes, on vous met 200 mg ou 100 mg par capsule ou par gélule. Et de quoi? C'est une poudre que l'on fait à partir de la plante. Alors, c'est quoi cette poudre? Ça peut être une poudre totale de la plante. Alors, de quelle partie de la plante déjà? Ensuite, ça peut être une poudre concentrée, c'est-à-dire qu'on peut avoir pulvérisé la plante, mais dans différentes conditions, sous vide, qui font qu'on a concentré cette poudre. Ou ça peut être pas grand-chose. Seulement, lorsque vous avez conservé la gélule ou la capsule quelques mois, quelques années sur un présentoir, ce qui reste vraiment du principe actif, ça on ne le sait pas. Ça, c'est donc les extraits secs, si vous voulez. Les poudres, ce sont les extraits secs. On peut avoir des extraits liquides. Alors là, on met en fait la plante dans un solvant, qu'il soit de l'eau ou de l'alcool, et on obtient une préparation. Et on peut savoir, à partir de l'extrait et partir du cahier des charges, combien on a de principes actifs. Parce que les laboratoires, en général, le mettent. Pourquoi? Parce que c'est une technique qui a été utilisée par les laboratoires homéopathiques depuis très longtemps. Et on le retrouve dans l'homéopathie sous le nom de teinture mère. La teinture mère est un extrait. Alors là, on le sait, les laboratoires homéopathiques ont un cahier des charges sérieux qui fait qu'on sait où sont ramassées les plantes, comment elles sont ramassées, comment elles sont traitées. Et toujours, c'est la même concentration et c'est la même teneur en principe. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors en général, on les prend en gouttes. C'est plus concentré. Alors le seul souci, c'est que chez l'enfant, c'est alcoolisé et il faut faire attention. En dessous de 3 à 6 ans, les formes alcoolisées ne sont pas recommandées. On peut avoir les suspensions intégrales de plantes fraîches qui sont alors là une forme un peu spéciale parce que toute la plante est mise en suspension dans l'alcool, elle est sous vide.
Donc dès qu'elle est cueillie en fait.
Dès qu'elle est cueillie. Bien sûr que la culture est dans des conditions de surveillance et avec un cahier des charges d'agriculture biologique. Donc c'est une forme qui est assez intéressante. Malheureusement, toutes les plantes n'existent pas en suspension intégrale de plantes fraîches. Il y a une autre forme qui est intéressante. Considérant que le bourgeon, quand il apparaît, Potentiellement, il est porteur de feuilles, de fleurs et de tiges de la plante. Et donc, se concentrer, on a eu l'idée d'extraire ces principes actifs à travers des macérats glycéridés. Alors là, les macérats glycéridés, c'est un ton barbare. Tout simplement pour dire que l'on met les bourgeons ou les différentes concentrations de plantes que l'on veut dans de la glycérine pour extraire les principes actifs. L'intérêt, c'est que c'est beaucoup moins alcoolisé que l'état turbaire et qu'on arrive à avoir des formes qui sont intéressantes, y compris chez l'enfant. Alors, on a par exemple un macérat glycéridé ou un macérat mère. C'est des formes de préparation un petit peu différentes, mais enfin qui partent du même principe. Qui, sous quelques gouttes, pour les macérats mères, on donne 5 gouttes à l'enfant matin et soir, par exemple. Si on lui donne de l'églantier et du cassis, il n'aura aucun problème l'hiver. Il y a une autre forme, et là, dont je demande d'utiliser avec de grandes précautions, ce sont les huiles essentielles. Elles sont très à la mode, à juste titre, mais elles sont potentiellement à risque. Quand on sait qu'il faut 150 kg de rose pour faire 1 litre d'huile essentielle de rose, vous voyez la concentration. Alors c'est valable pour toutes les plantes aromatiques. En les prenant par la bouche, attention. Je sais qu'il y a des livres qui existent, il y a beaucoup de conseils qui existent de la part de confrères, pharmaciens ou médecins. Et je vous dis, cette forme concentrée fait que si on n'est pas précautionneux, d'abord il peut y avoir une toxicité directe au niveau de l'estomac ou au niveau de l'intestin, ou il peut y avoir des effets secondaires. Il y a des huiles essentielles ou essences qui sont potentiellement épileptogènes, par exemple, qui peuvent donner des crises d'épilepsie. Moi, je contre-indique la prise d'huile essentielle chez l'enfant par la bouche. En revanche, on peut très bien les utiliser en massage. Par exemple, vous prenez l'huile essentielle de menthe poivrée, Amanita piperita, vous la mettez dans un petit support d'huile végétale, comme une huile d'amande douce par exemple, ça stoppe immédiatement une crise de migraine. Vous massez les tempes, oui, et vous avez une crise de migraine qui est stoppée immédiatement. C'est tout à fait efficace chez les grands migraineux. Alors donc, l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est remarquable. Ensuite, quand on est un peu stressé, qu'on a du mal à dormir, qu'on est un petit peu tendu, que le sommeil ne se déclenche pas, vous pouvez faire un petit massage du plexus, vous savez, au niveau de la base du thorax, juste avec de l'huile essentielle de lavande, toujours mise dans un support d'huile végétale pour éviter une toxicité cutanée. Mais il y a aussi, par exemple, des massages de la région pelvienne. Quand on a des infections urinaires récidivantes, on fait des petits massages au niveau du bas du ventre avec de l'huile essentielle de thym ou de romarin et on n'aura plus d'infections urinaires. 2-3 gouttes mélangées à l'équivalent d'une petite cuillère, une demi-cuillère à café d'huile végétale et ça suffit. Alors vous le faites, en cas d'infection urinaire, vous le faites 2 fois à 3 fois par jour, en cure, bien sûr, toujours sous conseil médical et en ayant pris soin de consulter son médecin, parce qu'il faut savoir quel est le germe en cause, mais c'est remarquable.
Découvrez régulièrement dans notre rubrique News Éthique les chroniques Les plantes dans tous leurs états par le docteur Jacques Labesca.